Voilà, bonsoir à tous et toutes. Merci de votre présence pour cette rencontre avec Yves Arthez. Bonsoir Yves.
Bonsoir Christophe.
Heureux de vous revoir Yves.
Heureux Christophe, moi aussi, après une longue absence.
Après une longue absence. Bon, nous avons travaillé ensemble à Sud-Ouest. Voilà, donc Yves nous a quitté le journal il y a quelques temps, mais il commençait déjà à réfléchir à ce livre que nous avons maintenant sous les yeux, sous la main, et peut-être l'avez-vous déjà découvert ou lu, certains d'entre vous, « La main sur le cœur ». Alors Yves, c'est un livre très personnel que vous avez donc donné au Passe-Muraille, un récit qui dans lequel vous mettez beaucoup de vous-même, mais aussi beaucoup de l'Espagne, beaucoup de votre amitié pour quelqu'un que nous avons connu à Sud-Ouest, Pierre Veité, dont vous allez parler, votre passion pour ce peintre, le Greco. Il est presque un peu dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas au-dessus de nous une reproduction de ce tableau. Ce tableau, donc, El Caballero de la Mano en el Pecho, excusez mon accent espagnol qui est fort mauvais, le cavalier à la main sur le cœur, hein, voilà. Donc un tableau du Greco, assez bien sûr magnifique, mais surtout assez mystérieux. Et c'est dans le mystère de ce tableau que Yves Arthez, vous avez voulu nous entraîner. Voilà. Donc peut-être pour commencer, pouvez-vous nous dire comment font le Greco? Vous le connaissez depuis longtemps. Vous l'avez. Je me souviens que vous parliez souvent de vos escapades à Tolède, où beaucoup de tableaux du Greco sont présents, d'ailleurs difficilement transportables, puisqu'ils sont souvent sur les retables des églises de Tolède. Donc ce peintre qui n'était pas, je dirais, espagnol, qui était d'origine grecque, qui a travaillé en Italie et qui est arrivé en Espagne pendant le siècle d'or. Comment avez-vous découvert le Greco, Yves, depuis fort longtemps, et pour quelles raisons l'avez-vous aimé?
Découvert, je ne sais pas si je l'ai découvert, parce que bon, le Greco, ça fait partie des grands peintres que l'on connaît. Après, on croit les connaître, et en fait, on s'aperçoit qu'on ne les connaît pas et qu'on arrive à les découvrir. Et pour ce qui me concerne, ce n'était pas le peintre espagnol vers qui je suis allé immédiatement. Dans ce que je raconte dans le livre, c'est-à-dire quand j'ai vraiment commencé à aller très souvent en Espagne, c'est-à-dire à partir des, quand j'avais 20 ans, donc à partir des années 70, et ensuite pendant toutes les années 80, etc., j'allais plutôt voir Goya, j'allais plutôt voir les Caprices de Goya, qui était quelque chose qui me bouleversait, ou le chien hundido, je sais pas comment on le traduit en français, le chien enterré de Goya, qui est un tableau absolument magistral, et naturellement Velázquez, qui est quand même le peintre des peintres, enfin le roi des peintres et le peintre des rois. Mais Greco, non, parce que Greco, c'est d'abord, premièrement, le Greco, c'est un peintre qui a une mauvaise réputation, qui a eu une mauvaise réputation très longtemps, qu'on a mis très longtemps à redécouvrir, qui a été redécouvert par les romantiques au 19e siècle. Et puis ensuite, beaucoup par Picasso. Picasso s'est beaucoup intéressé au Greco, notamment pour l'aplat des couleurs, et puis pour les deux juxtapositions qu'il fait très très souvent dans ses représentations. Bref, c'est pas un peintre facile, c'est pas un peintre vers lequel on va immédiatement. Mais en revanche, ce tableau, qui est peut-être le plus connu du Greco, est un tableau qui est tout bêtement très très souvent représenté dans les livres d'espagnol que l'on a au lycée. Parce que c'est un tableau qui représente la quintessence de ce qu'on appelle la hidalguía, qui est la quintessence de ce que pouvait être la prestance castillane du siècle d'or de Philippe II. Donc c'est un tableau qu'on connaît, qu'on a souvent vu, et j'ai fait l'expérience quand j'ai commencé à m'intéresser quand j'ai commencé à écrire ce livre, que je parlais du sujet qui me tenait à cœur, puisque c'était le cas. Je disais, mais vous connaissez le tableau? On me disait, non, je vois pas ce que c'est. Et quand je montrais la photo, tout le monde me disait, mais oui, bien sûr. Donc, c'est à la fois un tableau connu et un tableau totalement inconnu, et qui se double en plus d'un mystère.
Alors, ce tableau, donc, vous l'aviez donc en tête, toujours. On est en 2014, hein, le livre commence en 2014, donc lorsque vous décidez de partir à Tolède. Pourquoi Tolède? Parce que d'abord le Greco s'y trouve, et puis parce qu'il y a une rétrospective de ses œuvres à l'occasion du 400e anniversaire de sa mort. Absolument. Et donc là, vous partez tout seul. Vous teniez à partir seul, d'ailleurs, ce jour-là.
Du tout. Pas du tout. Je voulais pas partir seul. C'est en fait l'histoire que je raconte pas dans le livre parce que c'était.
Je vous assure qu'il est parti seul.
Je suis parti seul, mais à l'origine je ne voulais pas partir seul. À l'origine, je vais partir avec Philippe Lançon, qui est journaliste à Libération et avec qui je suis ami et qui venait de voir l'exposition. Il me dit j'aimerais bien le revoir, mais je dis si tu veux, on y va. Et puis au dernier moment, Philippe, qui a toujours 40 projets, il en réalise deux, me dit « je peux plus, etc. etc. » Et après, je devais partir avec un autre ami, qui est avocat à Bordeaux, et qui s'appelle Daniel Lalade, que certainement vous connaissez ici. Et puis au moment où je devais partir avec lui, il a eu un procès très important, il ne pouvait pas se libérer. Et puis je me suis dit « c'est quand même... » J'ai failli renoncer. Je me suis dit « c'est quand même idiot, c'est une expo que tu ne reverras jamais. Pourquoi je ne pouvais jamais la revoir ? Je n'aurais jamais pu la revoir. » C'est tout simplement parce qu'à l'occasion de ce 400e anniversaire, l'ensemble des tableaux du Gréco, les plumes, pas l'ensemble, mais pratiquement la totalité du tableau du Gréco, ont été rassemblés à Tolède et très exactement dans le lieu pour lequel ils avaient été commandés et exposés la première fois quand le peintre les avait terminés. Donc c'était quelque chose d'exceptionnel parce qu'on se retrouvait d'une certaine manière pratiquement dans l'ambiance que l'on pouvait supposer être celle dans laquelle le Gréco avait pour la première fois accroché ce tableau. Ils étaient revenus dans les lieux, très souvent les églises, les chapelles, etc., etc., pour lesquels ils avaient été commandés. Donc, c'est quand même trop rare pour louper un truc pareil. Et c'est comme ça que je suis parti tout seul à Tolède. Et à mesure que je suis parti, que je fais ce voyage, peu à peu me sont revenus des souvenirs. Des souvenirs qui ne sont pas ceux que j'évoque simplement dans le livre, mais d'autres souvenirs, et notamment quand je partais sur les routes en Espagne, lors de voyages, quand j'avais donc 30 ans, voire 40 ans de moins.
Alors voilà. vous partez donc sur les routes de Castille, vous partez donc seul, mais avec quand même dans l'esprit que vous avez traversé l'Espagne de très nombreuses fois, avec le deuxième personnage de ce roman, qui est Pierre Veïté. Donc Pierre Veïté, un ancien collègue décédé en 2013, qui a été un de vos meilleurs amis, ou en tout cas quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous. Peut-être pouvez-vous déjà évoquer Pierre Veïté, puisque je crois que dans la salle, certains d'entre vous l'avaient connu. Personnage très... Alors lui aussi, comment dirais-je...
Ambivalent, on va dire.
Portant à sa façon, un peu comme Gréco, et puis un peu aussi comme le personnage dont on va parler, ce Juan da Silva qui est sur le tableau, une part de mystère, hein.
Oui, parce que j'ai été ami avec lui. Je pense que j'étais l'une des personnes qu'il a le plus côtoyé jusqu'à la fin, pour être très franc, puisque on a déjeuné ensemble 8 jours avant sa mort supposée, puisqu'on ne sait pas quand il est mort. Et d'ailleurs, non seulement on ne sait pas quand il est mort, mais la seule chose dont on est à peu près certain, c'est qu'il est mort très exactement comme il le décrit dans son livre que je trouve être le meilleur de ce qu'il a écrit, qui s'appelle Marie Barbola. C'est incroyable, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que la fin du livre de Marie Barbola, c'est exactement la façon dont Pierre Veïté est mort. C'est-à-dire que la femme de ménage rentre dans la chambre, le découvre sur le lit, il est mort, et il avait raconté qu'on découvre l'héroïne Marie Barbola, morte quelque temps après sa mort, on ne sait pas quand, par la femme de ménage. C'est une coïncidence extraordinaire, mais qui en même temps dit le mystère total qui a toujours entouré ces personnages. Et Dieu sait que je l'ai connu, on a fait beaucoup de voyages ensemble, on a fait un film ensemble, il m'a fait débuter, il m'a fait écrire. C'est quelqu'un qui a été très très important dans ma vie, mais je ne pourrais pas dire que je le connaissais dans sa totalité. Donc ce mystère qu'il a toujours entouré, qu'il cultivait d'une certaine façon, très certainement pour se protéger, parce que c'était quelqu'un qui était beaucoup plus fragile que ce qu'il laissait paraître, quelqu'un qui m'a manqué dès sa mort et qui me manque toujours. Très souvent je me dis qu'est-ce qu'aurait dit Pierre, ou je me dis c'est quel dommage que je ne puisse pas lui raconter ça l'aurait enchanté, parce qu'il avait ce talent non pas de tourner la vie en dérision mais de poser un regard amusé sur la vie qu'au fond il ne prenait pas très au sérieux. Et c'est pour moi, ça a été un compagnon dans ma vie. Oui.
avec lequel vous avez donc réalisé de très nombreux voyages en Espagne. Vous en racontez quelques-uns au début, notamment à Ronda, donc à une corrida. Oui. Vous partez donc pour l'Andalousie.
Ça, c'est la première fois, oui.
Ouais, vous partez pour l'Andalousie, puis vous allez bien sûr donc dans d'autres lieux d'Espagne. Ce qui vous intéresse beaucoup, c'est sa part de mystère. C'est aussi le fait qu'on ne sache jamais très bien si ce qu'il raconte est imaginé ou réel. Il y a une anecdote qui m'a fait sourire, moi qui suis amateur de vélo, mais à un moment donné, vous êtes à Tolède et puis vous allez vous rencontrer Federico Bahamontes, qui est donc...
On va dans son magasin de cycles.
Qui est un magasin de cycles donc à Tolède, qui est l'ancien, donc pour ceux qui connaissent le vélo, qui a été l'aigle de Tolède, un des plus grands grimpeurs de l'histoire du Tour, et qui est impeccable dans son petit costume donc devant sa boutique de vélo. Et à ce moment-là, donc vous lui serrez la main, vous parlez avec lui, et la vérité vous dit: je l'ai vu en 1959 au Tourmalet. Et vous ne savez pas si c'est vrai.
Non, je suis persuadé que c'est faux, mais ça peu importe. Ça, c'est pas, avec Pierre, ce n'était pas le problème. Mais pour en revenir à pour compléter la question précédente, ça fait très longtemps que je voulais écrire sur l'amitié. Parce que c'est l'amitié masculine. Parce que c'est un thème qui est très peu abordé, qui est très difficile à raconter, pour ne pas laisser passer d'ambiguïté. Ce qui pourrait être possible dans cette situation. Et je voulais écrire sur l'amitié avant la mort de Pierre. D'une certaine façon, son décès a précipité un peu les choses. Je crois que j'aurais écrit un livre sur l'amitié masculine, mais je n'aurais peut-être pas écrit un livre sur l'amitié masculine avec Pierre. J'aurais peut-être écrit avec d'autres. Enfin, je n'ai pas beaucoup d'amis véritables dans ma vie, mais j'en ai au moins quelques-uns dont je suis sûr. Et il se trouve que la conjonction de ces deux choses, du halo du mystère qui a toujours entouré Veïté, et de ce désir que j'avais d'écrire, de me colleter à ce thème très, très précis de l'amitié masculine, se sont rencontrés. Et se sont rencontrés pratiquement devant ce tableau, ça c'est vrai.
Alors d'ailleurs, ce tableau, vous avez parlé de Pierre Veïté, mais d'une façon assez étrange, ou en tout cas très compréhensible, vous retrouvez certains traits de votre ami dans ceux de ce tableau, du personnage de ce tableau. À un moment donné, dans le livre, je n'ai pas le passage exact, mais vous vivez un moment de pure superposition entre les traits de Juan da Silva et ceux de Pierre Veïté. Est-ce que c'était vraiment votre volonté d'y voir cette ressemblance? Est-ce que ça vous a réellement poursuivi, cette ressemblance?
Non, pour écrire un livre, il faut de temps en temps mentir également. Bon. Alors, je ne vais pas vous dire que Juan da Silva ressemble trait pour trait à Pierre Veïté. Mais, en revanche, ce qui est vrai, c'est que ce qui m'a immédiatement intrigué et plongé totalement dans le tableau, c'est la légende qui accompagnait le tableau. Parce que la légende qui accompagnait le tableau était, à mon avis, extravagante. Elle disait, Juan da Silva, peut-être, alors que c'est rare quand même, peut-être espion à la solde de Philippe II, traître, racontant un peu de sa vie, et finalement ambassadeur au Portugal. Et quand j'ai lu cette légende, qui était très très surprenante par rapport à celle que j'avais lue au Prado des années auparavant avec Pierre Veïté, ce qui m'a stupéfait, et c'est là où j'ai trouvé la ressemblance avec Pierre, c'est qu'il mettait la main sur le cœur et disait, dans une position de serment. Or, toute l'ambiguïté est là. Normalement, ce tableau, il est considéré, avec cette position, comme quelqu'un qui jure fidélité et ne peut pas justement être un parjure. Mais si jamais il pose la main sur le cœur pour une autre raison, qui est celle de dire « mais je n'ai pas menti », ça veut dire qu'il a menti. Et alors là, cette spirale d'interrogation m'a ramené à ce que systématiquement je me retrouvais avec Pierre Veïté, quand je savais pertinemment qu'il mentait, qu'il me disait « je vous jure que c'est vrai en posant la main sur le cœur ». Et ça, je l'ai vu faire tellement de fois, mais ça, des choses absolument invraisemblables que je raconte dans le livre. D'ailleurs, j'ai eu ma fille qui ne vit pas en France, et donc je l'ai rarement au téléphone. Elle a fini le livre, là, je ne sais pas pourquoi, elle a mis 2 mois à le lire. Normalement, il se lit en 1 jour et demi, mais bon, peu importe. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Elle m'a dit, je me suis marré de multiples fois. Et tant mieux, parce que je ne voulais pas faire un livre triste. C'est peut-être rempli de nostalgie, mais ça, c'est une autre histoire. Mais je ne voulais pas faire un livre triste. Et Pierre était un enchanteur de vie. C'était quelqu'un qui m'a fait hurler de rire. Je me suis marré avec lui comme rarement j'ai ri avec quelqu'un. Mais pour cette raison-là, parce que je savais très bien quand il mentait, Mais ces mensonges m'amusaient et ça m'enchantait de le voir mentir comme ça, comme l'enfant, quoi.
Un affabulateur.
Pas tout à fait, parce que lui-même n'était pas dupe de ce qu'il disait. Mais ils s'en foutaient, c'était comme ça.
Alors, c'est pas un livre triste. Néanmoins, le chevalier à la main sur le cœur n'a pas l'air d'être un comique troupier, on va pas le dire. Hein. Il est plutôt sombre. Alors, tout le mystère, parce que rentrons un peu dans le vif du sujet, mais tout le mystère, c'est de savoir évidemment qui était cet homme. Donc, lorsque vous découvrez son visage, enfin redécouvrez son visage, il y a surtout ce cartel qui vous intéresse, qui raconte, qui est une sorte de courte biographie du personnage. Et en fait, ce n'est pas ce à quoi vous vous attendez. Dès la page 10, vous citez intégralement ce cartel, et on a affaire donc à un certain Juan da Silva, donc comte de Portalegre, dit le manchot, ou le mutilé. Pourquoi le manchot, le mutilé? Si on regarde bien le tableau, on s'aperçoit qu'il a une épaule droite et puis une épaule fuyante. Et en fait, cette épaule fuyante est une épaule qui dégringole même. Et donc on s'imagine très bien que le bras qui est au bout de cette épaule est un bras
désarticulé.
Est un bras désarticulé. Voilà. Alors, à qui avons-nous affaire? Le cartel nous le dit, c'est donc
le mango qui pourrait être un espion, etc. Voilà. Donc je me suis demandé qui avait pu écrire ça. Parce que fatalement, si c'est pas le même cartel qu'au Prado, ce n'est pas quelqu'un du Prado qui l'a écrit. Et donc j'ai mené une enquête. Alors j'ai fait très facilement. J'ai demandé rendez-vous à la conservatrice du Prado. Rendez-vous que j'ai obtenu, mais dans l'instant, j'ai envoyé un mail. Trois heures après, j'avais une réponse me disant quand vous venez-vous en Espagne, je sais votre disposition.
Laetitia Ruiz.
Ce qui est quand même. Enfin, j'étais quand même stupéfait. Je me suis mis dans la peau d'un journaliste espagnol qui écrit au conservateur du musée du Louvre. Je suis pas sûr qu'il aurait eu cette même réponse. Mais enfin, bref.
C'est l'exotisme du journaliste français.
Non, je crois pas. Je crois qu'il y a en Espagne une courtoisie, peut-être de notre âge, mais qui n'existe plus en France, tout bêtement.
Oh, Yves, ne dites
pas
ça.
Oui, et Christophe, je dis ça, oui.
Ne généralisez pas.
Bon, enfin, toujours est-il que... Mais prenez rendez-vous avec le conservateur du Louvre, on en reparlera. Bon, ensuite, donc, j'ai cherché qui avait écrit le livre de l'exposition. Et le livre de l'exposition a été écrit tout simplement par Juan Marías. Ce qui a ouvert une autre porte sur une autre histoire, mais qui était trop long pour raconter, qui
fait partie... Fernando Marías.
Fernando Marías, pardon, qui est le frère de Javier Marías et le fils de Juan Marías.
Donc une famille considérable. Une famille
dynastique d'intellectuels madrilènes qui est inouïe. Javier Marías est très certainement l'un des meilleurs écrivains européens d'aujourd'hui, actuel, moderne. Son père était un républicain qui avait été chassé après par le franquisme, qui était parti à Princeton, et qui était très ami avec Nabokov. Enfin, c'est une dynastie intellectuelle comme il y en a peu, comme ça il n'existe peu dans le monde. Et donc
vous donnez rendez-vous à Fernando Marías.
Dans
un très bon petit restaurant d'ailleurs.
C'est lui qui m'indique où on va, et c'est un restaurant, paraît-il, fréquenté par Zidane, donc à l'époque où il était au Real de Madrid. Et donc, je le vois, je lui dis, mais est-ce que c'est vous qui avez écrit ce cartel sur Poinon? Je dois dire qu'il était un peu ennuyé parce qu'il n'avait pas envie que... D'abord, il était à mille lieux de soupçonner qu'un journaliste français ait pu remarquer ça, puis c'était passé totalement inaperçu. Ça l'ennuie un peu de monter une polémique avec le Prado. Bon, après, il a dû se dire, ça ne sera jamais traduit en espagnol, je suis tranquille.
Enfin, quelle erreur!
Peut-être qu'elle erreur, parce qu'il n'est pas impossible qu'il soit traduit en espagnol. Mais en fait, on saura ça la semaine prochaine. Bon, enfin, bref, passons. Et donc, il me dit, c'est moi qui ai fait ce cartel. Mais je dis, mais d'où tenez-vous ça? Enfin, comment vous avez pu inventer un truc pareil? C'est me dit, mais je n'ai rien inventé du tout. Mais allez chercher, je vais vous donner des références. Soyez patient et vous allez trouver les sources. Et donc, je me suis effectivement penché sur le sujet. Et j'ai découvert, alors là, c'est là où Internet vous fait gagner un temps, aujourd'hui absolument faramineux, quelque chose qui s'appelle, je ne dis pas en espagnol, ça s'appelle « La vie à la cour de Philippe II ». Et dans « La vie à la cour de Philippe II », qui est un ouvrage collectif écrit par des universitaires castillans, il y a, pour faire le tableau, il y a plusieurs types de gens qui participent à la vie de la cour. Alors, il y a le prêtre, il y a le financier, il y a le conseiller... Et il y a l'ambassadeur espion. Et l'ambassadeur espion, c'est Juan de Silva. Et j'ai donc trouvé la vie de Juan de Silva par l'intermédiaire de cette étude d'universitaire madrilène que j'ai trouvée sur le net. Et la vie, effectivement, de cet homme-là, qui n'est peut-être pas gay, est absolument mais incroyable. C'est une vie insensée.
Alors évidemment, une vie beaucoup plus romanesque que celle de l'option 1, parce que ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'il y a deux Juan da Silva. Il y a celui dont on pense qu'il est le modèle du tableau, qui était un homme qui était, donc on l'appelait le marquis de Montemayor, c'est ça, chef militaire de la forteresse de l'Alcazar, notaire du royaume sous Philippe II. Donc un personnage officiel important de la cour.
Qui n'a laissé aucune trace, on trouve.
Voilà, mais dont on comprend qu'il ait pu être portraituré par un peintre comme le Greco, de par son importance à la cour. Hein. Et puis l'autre Juan da Silva, lui, c'est celui dont vous parlez. Oui. Et lui, alors là, évidemment, vit beaucoup plus romanesque, fonction beaucoup plus obscure, mais néanmoins existante.
Il n'a pas des fonctions. Sous Philippe II, il n'a pas du tout des fonctions obscures. C'est quelqu'un qui, au contraire, qui aspire un grand destin, qui n'aura jamais. Mais qui est très connu et qui, même à un moment donné, est flamboyant. Parce que il commence par être page de Philippe II. C'est un poste considérable. Ensuite, Philippe II, qu'il a connu comme enfant, le nomme comme précepteur de son fils qu'il est, et le réciproque est vrai, puisque le fils est le père, et qui est normalement le successeur désigné, dont le Philippe II comprend très rapidement qu'il est fou, qu'il faut l'enfermer, et qu'il n'y a, aucune autre alternative avec lui. Et donc, c'est le précepteur qui, en fait, est chargé de surveiller et de calmer ses délires, c'est Juan da Silva. Donc c'est un poste extrêmement important. Et ensuite, il accepte une mission qui l'amène à Oran, puisqu'Oran est une ville espagnole, et qui va le rester jusqu'en 1772, je crois, où il mène des combats extrêmement importants. Et ensuite, il rentre à la cour, il a encore un autre rôle, qui est un rôle très très important, puisqu'il est chargé de surveiller comme espion le roi Sébastien du Portugal, qui lui-même est un peu dérangé, tout ça, quand même, c'était des mariages très consanguins, d'ailleurs, on a vu comment ça a fini, et qui lui-même est un peu dérangé, et donc, on s'est chargé de le suivre jusque dans la pire des catastrophes, qui est donc la bataille d'Alcorcibir, d'Alcazarquibir, qui est qu'on a appelé la bataille des trois rois, et qui est une bataille où il a perdu son bras. Il a un bras désarticulé par un coup d'arquebuse. Et donc, il est racheté, il y a une rançon pour le racheter. Donc on voit tout de suite que c'est quelqu'un de très très important.
Alors donc c'est un homme qui a conscience d'avoir beaucoup servi son roi, d'avoir été fidèle à son roi, d'avoir rempli des missions difficiles et dans son entourage et puis ensuite au service de sa politique, puisqu'en fait il est envoyé au Portugal pour essayer de régler la succession, permettre à la couronne d'Espagne de mettre la main sur la couronne du Portugal et donc de faire un travail d'ambassadeur, mais aussi un travail de contrainte, habile. Donc il a beaucoup de qualités, évidemment. Mais lorsqu'il rentre à la cour, c'est là qu'il s'aperçoit qu'il ne fait pas partie du premier cercle comme il aimerait en faire partie.
Exactement.
C'est bien ça.
C'est-à-dire qu'il veut rentrer dans ce qu'on appelle la junta. Et la junta, c'est un conseil qui entoure le roi, qui est un conseil très restreint, il y a 4-5 personnes. Son ambition, c'est de rentrer là et de devenir, grosso modo, le conseiller officieux de Philippe II. Et ça, c'est quelque chose auquel il n'arrivera jamais. Et il termine sa vie dans une certaine amertume, éloigné du pouvoir, de ses fastes, etc., etc., en écrivant des lettres acrimonieuses, parce qu'il écrivait en plus, c'était un très très fin lettré, il écrivait admirablement bien. Il y a des lettres que j'ai trouvées de lui qui sont remarquables d'écriture. C'est l'avantage des castillans de cette époque-là, c'est qu'on peut le lire pratiquement comme l'espagnol d'aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas du français.
Alors évidemment, quand on est un personnage comme lui, avec ses états de service, on s'attend à des rétributions qu'on n'obtient pas, en tout cas une reconnaissance qu'on n'obtient pas. Et alors, c'est évidemment la clé de qui explique son visage. Le visage, en tout cas, c'est comme vous. Lorsque vous regardez son visage sur le tableau du Greco, vous avez évidemment l'intuition qu'il y a dans ce regard, dans cette attitude, toute une amertume, toute une tristesse peut-être, tout un remords, quelque chose qui transparaît dans ses yeux. C'est ce qui vous frappe, c'est son regard.
Ça, c'est ce que j'imagine. J'imagine la raison du... La raison du tableau, pourquoi il se fait peindre ainsi. Et de mon point de vue, il se fait peindre ainsi pour assurer à son roi qu'il est beaucoup plus fiable et beaucoup plus considérable que ce que finalement le destin que le roi lui réserve. Parce que dans le même temps, Philippe II se renferme dans son rêve fou de l'Escorial, qui est l'inverse d'ailleurs de la retraite où, par son père, où est parti son père, Charles Quint. Autant que Charles Quint, on imagine que Yuste, le monastère dans lequel se réfugiait Charles Quint, est quelque chose de très triste. C'est pas du tout ça. Yuste, c'est un petit paradis en Extrême-Adur, absolument surprenant, charmant, mais pas du tout grandiloquent, pas du tout imposant. C'est quelque chose d'absolument délicieux.
Tout le contraire,
tout le contraire de l'Escorial.
De l'Escorial.
Qui est un monument de tristesse pétrifiée.
Vous nous emmenez d'ailleurs à l'Escorial, bien sûr.
Ben oui, parce qu'on peut pas faire, on ne peut pas parler de Philippe II, on ne peut pas parler de Juan de Silva sans aller à l'Escorial, qui est une visite qui m'a stupéfait. Vraiment stupéfait, parce que je n'étais jamais allé d'abord. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais jamais mis les pieds à l'Escorial. Et c'est quelque chose qui est fascinant. C'est fascinant de voir la démesure des rêves de ce roi, sa claustration volontaire.
Ce palais en forme de grill qui mime le martyre de Saint-Laurent.
Alors, oui, on dit ça. C'est pas certain. C'est pas certain que ce soit en forme de grill pour le martyre de Saint-Laurent. Ce qui est vrai, c'est qu'il est construit en hommage à Saint-Laurent et pour fêter la victoire de une grande victoire espagnole sur les Français, qui est la victoire de Saint-Quentin. Dans cette victoire à Saint-Quentin, qui se trouve dans le nord, puisqu'à l'époque les possessions espagnoles allaient jusqu'en Flandre, Saint-Quentin donc, qui est dans le nord, lors de cette bataille de Saint-Quentin, un couvent dédié à Saint-Laurent a été détruit par les troupes espagnoles, incendié. Des personnes qui étaient à l'intérieur du couvent sont mortes, brûlées vives. Et en repentir de cette action abominable, Philippe II avait décidé de rendre hommage à Saint-Laurent, d'autant qu'il se trouve que le jour de la victoire de Saint-Quentin, dans un curieux concours des circonstances, et le jour de la fête Saint-Laurent. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est bâti sur un grill. Il y a d'autres versions, mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans, parce que c'est trop compliqué, c'est pas très intéressant, finalement. Mais pour en revenir à l'Escorial, c'est un rêve monstrueux de pierres. Voilà. Et de pierres qui sont bâties sous une forme de pyramide inversée. C'est-à-dire que quand on s'enfonce dans l'Escorial, et qu'on va jusque dans la chambre funéraire, on va... on descend dans une pyramide comme si on descendait à la pointe de la pyramide. Et ensuite, on va vers le rêve fou du monarque. Car il y a une cathédrale qui voulait aussi imposante que la basilique de Rome. Il voulait une bibliothèque qui soit aussi grande que celle d'Alexandrie. D'ailleurs, bibliothèque qui est toujours fastueuse, qui est admirable. Il voulait naturellement une chambre funéraire qui soit digne des pharaons d'Égypte. Et en revanche, il y a toute petite chambre blanche du plus grand monarque de du roi du monde de l'époque, dans lequel il va mourir puant, gangréné, dans une jouissance d'un martyr qu'il s'impose et qu'il montre à son fils. Et toute petite chambre avec une fenêtre qui donne très précisément sur le grand hôtel, l'hôtel principal de la basilique qu'il a fait construire. C'est quelque chose de stupéfiant et qui en dit plus long sur les rêves de gloire de l'Espagne que toute autre démonstration.
Alors c'est ce très grand roi, Philippe II, qui domine l'Europe.
L'Europe et le monde.
Ouais, enfin, oui, puisqu'il y a
les Indes, les conquêtes, l'Amérique latine.
Donc ce grand roi, évidemment, le Gréco qui est venu appeler à la cour de ce roi pour peindre à la gloire du monarque. Et alors, ça va pas très bien se passer pour le Gréco, et c'est peut-être la raison pour laquelle d'ailleurs on est à Tolède et pas à Madrid, puisque le Gréco finalement va rater son entrée à la cour.
Alors, ce qui m'a passionné, c'est de réunir ces trois destins en fait, parce que ce sont trois destins qui sont comparables dans leur désir d'accéder à au plus près de ce qu'il y a de la représentation que l'on peut se faire du monarque, y compris pour Pierre qui voulait véritablement être aux côtés de Jean-François Lemoine, qu'il aimait beaucoup d'ailleurs, mais pas une fonction subalterne, ce qui était tout de même assez compliqué, même qu'avait le talent qu'avait Pierre.
Jean-François Lemoine, le patron de Sud-Ouest.
De Sud-Ouest à l'époque. Et le Gréco, lui, voulait être un peintre qui devait être. Il ne pouvait tolérer être peintre de Philippe II que s'il était considéré comme le seul peintre de Philippe II, ce qui était un péché d'orgueil inouï. Et de la même façon, Juan de Silva voulait être le seul conseillé, considéré par Philippe II, ce qui était également une mission absolument impossible qui s'était fixée. Et cette similitude de destin...
Et des prétentions, quoi. Hein.
Comment ?
Et des prétentions.
Et des prétentions, d'une certaine façon. Ça a commencé vraiment à m'intéresser. Et c'est autour de ça que j'ai noué le livre. Parce que le Gréco, donc, pour en revenir plus précisément à la question que vous me posez, le Gréco, c'est un peintre qui commence par faire des icônes byzantines, puisqu'il est chypriote, très exactement, et donc il est très certainement de religion orthodoxe, il fait des icônes byzantines. Ensuite, il va à Venise, où il apprend à faire des portraits, ça ne se passe pas très très bien. Il part à Rome. Alors à Rome, là, on voit déjà que lui aussi, il a quand même une assez haute idée de lui-même, parce qu'il dit finalement, ce Michel-Ange, il sait pas bien faire des fresques. Je trouve ça pas terrible. Alors tout le monde le regarde stupéfait. Bon, donc il détruit toutes ses possibilités d'accession au plus haut niveau, et il se dit bon, mais il y a quelque chose qui est en train de naître en Espagne, et je vais y aller pour me mettre au service du roi. Et là, il, à nouveau, son péché d'orgueil le condamne à ne pas être le peintre du roi, puisque le roi lui commande un tableau très précis, qui est le martyr de Saint-Maurice et de la Légion Thébaine. Saint-Maurice est un capitaine d'une légion, c'est-à-dire les troupes d'élite de l'époque, qui se convertit à la foi catholique, qui devient donc chrétien, et l'empereur lui demande d'abjurer sa foi, sa nouvelle foi, et de demander aux hommes, puisqu'il a décidé de façon autoritaire, a décidé que ces hommes étaient devenus également catholiques comme lui, d'abjurer, de revenir à l'adoration de l'empereur. Saint-Maurice doit convaincre ces hommes qu'ils ont de questions, et il demande à ses légionnaires aguerris de remettre leur épée, de se laisser égorger. C'est la commande que le roi fait au Gréco. Mais le Gréco, lui, il en fait l'interprétation personnelle. Et il fait, au lieu de faire ce que demande le roi, c'est-à-dire... un tableau édifiant, où avec des têtes coupées, du sang qui coule, des veines en gros plan. Il fait une discussion de gens charmants qui s'intéressent. Il dit finalement, on va se laisser égorger. Enfin, bon, il fait toujours contre ce qu'on a le roi. Ce qui fait que, bon, le roi est stupéfait. Il dit mais c'est quoi ce type qui refuse ce que je lui demande de faire? Et donc là, son destin est fracassé. Et il décide, puisqu'il ne pourra pas être le peintre de la cour du roi, il deviendra le peintre de Tolède. Et c'est comme ça qu'on arrive à Tolède. Où il reste,
il aurait pu tourner le dos, il aurait pu rentrer en Italie, il aurait pu,
mais non, parce qu'en Italie c'était légèrement grillé en disant que Michel-Ange était un peintre médiocre, donc
ou partir plus loin,
ça devenait gênant.
Il aurait pu choisir de partir plus loin,
mais après il n'y avait plus grand chose. Il y avait la France, mais à l'époque c'était pas terrible, c'était en pleine guerre de religion. Non, l'Espagne,
donc, il décide de se
l'Espagne et l'Escorial, c'était quand même pour les peintres à l'époque,
Oui, parce qu'il faut dire qu'on est vraiment à l'apogée du règne. Hein. Oui. On est 10 ans avant l'invincible Armada, donc c'est vraiment le moment où l'Espagne est vraiment...
C'est le moment le plus glorieux de l'Espagne, le plus puissant de l'Espagne.
Moment après lequel, ensuite, la vie sera une longue pente descendante.
Pour des raisons de consanguinité, d'une part, comme je parlais tout à l'heure, parce qu'après Philippe II... heureusement, ils s'appellent tous Philippe, ou à peu près tous ceux qui suivent, ce qui est une manière mnémotechnique assez facile de s'en souvenir. Mais pour le reste, ils n'ont pas été très glorieux. Quoi.
Alors oui, vous avez vraiment choisi, dans les deux options de ce Juan da Silva, dans ces deux visages, vous avez choisi le plus romanesque. Hein. C'est vrai, hein, ce manchot, cet espion, cet ambassadeur, cet homme réprouvé, finalement, en tout cas, qui a le sentiment d'avoir été abandonné par son souverain. Hein, donc c'est évidemment un grand malheur pour lui. Donc tableau crépusculaire, quand même, un peu. Mais alors, dans l'enquête que vous menez, vous avez quand même remarqué que... Pas découvert, parce que c'est connu en Espagne, mais que le tableau a été manipulé. Hein. Le tableau a été
C'est-à-dire...
Alors, expliquez-nous ce qui s'était passé exactement.
C'est-à-dire, le tableau a été manipulé. C'est pas qu'il était exactement manipulé. C'est-à-dire que... Le tableau a été
restauré.
Au 19e siècle, la mode du temps, quand il y avait un tableau qui commençait un peu à les couleurs palissées, on réinterprétait un peu le tableau. Et la mode du temps était de faire des tableaux très sombres. Donc le fond du tableau avait été assombri volontairement. Et ce qui fait qu'on avait gommé tout un aspect de la personnalité picturale du Gréco. Et quand il a fallu à nouveau restaurer le tableau, et ça se passe en 1992, je crois, on confie le tableau au grand restaurateur du Prado, qui est parfaitement intègre, et il découvre, grande stupéfaction, il étudie le tableau rayon X, il découvre que sous cette couche noire qui donnait cet aspect sombre, inquisitorial, sévère à l'Hidalgo, Caballero, à la Del Manuel El Pecho, il y a des différences, et notamment un fond qu'on retrouve dans d'autres tableaux du Greco, qui est un fond gris-rosé. Et ce fond gris-rosé laisse apparaître cette découpe de la... cette curieuse dissymétrie des deux épaules. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à s'interroger sur quel était le tableau d'origine et ce qu'il pouvait véritablement représenter. Ce qui explique pourquoi la nouvelle version, la nouvelle identité que l'on imagine donnée au Caballero de la Manon del Pecho ne peut apparaître qu'à partir de 1990, puisqu'on découvre et ce fond gris-rosé et cette épaule dissymétrique. C'est ce qui explique pourquoi c'est assez récent et que ça va à l'encontre de tout ce qui avait été dit. Mais ce qui est très drôle, en revanche, c'est que cette restauration du tableau n'est pas du goût d'un député. Et alors, je ne sais pas pourquoi. C'est à peu près comme si aujourd'hui Mélenchon se mêlait de peinture au Louvre, quoi. C'est à peu près ce qui s'est passé.
C'est un député communiste.
C'est un député, c'était pas communiste, mais enfin, peu importe, c'était assimilé aux communistes valenciens qui brusquement s'est érigé en défense de la monarchie, de l'hidalguie espagnole, et qui a dit mais c'est une honte d'enlever ce noir qui va si bien à ce tableau. Enfin, on sait de quoi il se mêle, mais ça a fait une bataille. C'est comme si aujourd'hui une restauration du tableau au Louvre donnait un débat à l'Assemblée nationale mené par Mélenchon dans le rôle du défenseur de la monarchie. Vous voyez un peu l'absurdité de l'histoire. Donc bref, depuis ce type-là qui s'appelle Alcataraz est revenu à ses amours valenciens,
il défend les langues régionales
aujourd'hui, notamment le valencien qui n'est pas encore assimilé à une langue régionale. Bon, bref, donc et tout va bien pour le tableau. Donc le restaurateur a été rétabli dans sa gloire et ses honneurs. Mais ça a donné lieu à une histoire extrêmement amusante et que j'ai retrouvée dans les articles de presse de l'époque.
Alors cette enquête picturale que vous menez, bon c'est évidemment la colonne vertébrale du livre, mais il y a quand même beaucoup de choses dans ce livre qui est personnel, qui est très aéré aussi, parce que vous traversez plusieurs fois la Castille. On est en Castille, hein, donc la Castille c'est les Hidalgos, c'est Tolède, cette ville fière et au perché qui domine ce plateau immense. Vous aimez beaucoup le plateau de la Castille. On est lorsque le Greco peint le Caballero, nous sommes à l'époque de Cervantes aussi, hein, donc vraiment l'ombre de Cervantes passe. Vous parlez d'ailleurs, vous passez dans sa ville natale, puis vous dites aussi à un moment, Yves, que le Caballero et le Quichotte sont d'une certaine façon deux versions complémentaires, finalement, du même type humain. Vous dites ça.
Non, je pense que c'est pas des versions complémentaires, c'est la même version interprétée d'une manière différente, c'est-à-dire que le Quichotte, c'est grosso modo l'Hidalgo moqué. Mais c'est la même personnalité, c'est la même entité castillane, c'est pas espagnol, c'est l'entité castillane profonde, et l'une est tournée en dérision par Cervantes, alors que l'autre est peinte dans son apothéose par le Greco, pratiquement au même moment. Bon, Cervantes écrit Don Quichotte un tout petit peu plus tard que le Greco que peint le Juan de Silva. Mais c'est une similitude insensée dans ce que veut être Don Quichotte et ce que veut être Juan de Silva. Ils veulent être finalement la même chose. Les hommes seuls capables de n'avoir à rendre compte que devant Dieu et devant le roi. Bon, et pour Don Quichotte, devant Dulcinée. Ça, c'est une autre histoire.
En tout cas, quand vous traversez la Castille, vous êtes sur les routes du Quichotte, vous êtes sur les routes...
Je traverse la Castille...
Qu'est-ce que vous aimez en Castille? Qu'est-ce qui vous plaît tant dans cet univers-là, ce paysage?
Peut-être le sentiment d'un monde qui n'est pas fini. Cette vastitude, ceci à la portée de la main, ces ruines, ce souvenir d'une Espagne glorieuse et dont on perçoit très rapidement la gloire passée et la déchéance. Et comme ce sont des thèmes qui m'ont toujours été... m'ont toujours intéressé. Et puis, je traversais la Castille et l'Extrémadure et le Portugal avec Pierre Veïté. Et surtout, ce que je voulais dire à travers l'amitié, essayer de raconter ce que pouvait être toute une intimité masculine, je voulais rappeler aussi combien Pierre Veïté, dont on, hélas, on se souvient trop de mon point de vue de sa fin, a été quelqu'un de majuscule, pas simplement pour moi. Ça a été un type admirable. C'était quelqu'un d'une culture inouïe. C'était quelqu'un d'un talent littéraire, c'est même pas la peine d'en parler. C'était, contrairement à ce qui se raconte aujourd'hui à Sud-Ouest, un immense journaliste, un très grand rédacteur en chef, quelqu'un qui avait une préscience des événements, qui n'était pas capable de comprendre ce qui allait se passer. Ça a été vraiment quelqu'un qui, dans l'histoire de la presse, je pèse mes mots, dans l'histoire de la seconde partie de la presse du XXe siècle, a été quelqu'un de très important. C'est quelqu'un qui a réinventé un journal qui s'appelait Sud-Ouest Dimanche. Non, c'était quelqu'un de majuscule.
C'est que bon, c'est un aspect de sa personnalité dont vous parlez peu dans ce livre, donc parce que évidemment, enfin, vous l'évoquez comme ça en filigrane, on le comprend, mais
non, mais on comprend mieux que ce n'est pas la caricature à laquelle on a voulu le réduire ensuite.
Voilà, mais enfin, ceux qui découvrent évidemment votre œuvre et ceux qui le découvrent évidemment ne savent pas ça. Hein. En tout cas, c'est
ce qu'ils savent maintenant.
Voilà, maintenant ils le savent. En tout cas, c'est un merveilleux introducteur en Espagne, puisque l'Espagne vous la connaissiez, mais au fond, c'est lui qui vous la révèle d'une certaine façon, différente de celle que vous pensiez.
Pas tout à fait. On avait des Espagnes complémentaires, et c'est plutôt ça, si vous voulez. C'est que. L'Espagne, moi, elle était finalement plus réelle que la sienne, et lui, c'était une Espagne rêvée. Et c'était amusant de faire un voyage avec une Espagne réelle, une Espagne rêvée. C'était très drôle, quoi, parce que... Donc, je vois pas le re-redire, mais il raconte à peu près n'importe quoi. Quand on rentre dans une ville, il étudie le guide pour me dire qu'il la connaissait très, très bien. Bon, bref. Mais peu importe. C'était une Espagne rêvée. C'était une Espagne qu'il avait lue et qu'il voulait revoir.
D'ailleurs, il lui arrivait assez souvent de vous raconter des choses qu'il venait de lire dans un guide. Hein.
Parfois, ça lui arrivait, oui.
Parfois, vous arriviez dans un endroit.
Qu'il avait lu dans les astres, je ne sais pas où, mais enfin, bon.
Ouais, il avait, oui, la veille au soir ou le matin même, il avait découvert tout ça.
Mais à côté de ça, c'est quelqu'un qui avait, c'était un puits de culture. C'est-à-dire qu'on pouvait parler de littérature pendant des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres. Et puis même, il avait... je sais pas pourquoi, il s'était passionné un temps pour la révolte des Cévenoles. Je sais pas pourquoi. Bon, il était capable de raconter la révolte des Cévenoles. C'était insensé. Et quand on parlait par exemple de la différence fondamentale entre le protestantisme et le catholicisme, il était intarissable. C'était des choses comme il pouvait être intarissable sur l'omelette des Asturies, ce que je raconte dans le livre. C'était quelqu'un qui était quand même phénoménal, quoi.
Et sur le Gréco?
Sur le Gréco, à part le tableau, le Gréco, ça n'intéresse pas beaucoup. À part ce tableau, parce qu'on allait le voir, au Prado, c'était l'un des tableaux devant lequel il s'arrêtait. Non, mais lui, là, il filait voir les primitifs flamands, parce qu'il prétendait que c'était une de ses ascendances. Et après, il partait voir Velázquez. Après, on s'arrêtait un peu sur Goya. Et le Gréco, il ne s'y intéressait pas beaucoup. On regardait ce tableau, puis après, il me laissait, on se retrouvait...
Bon, en revanche, nous, on a envie de les voir, les Gréco, donc il faut aller à Tolède, évidemment, on le disait au début, et puis au Prado.
Et aller au Prado. Le Prado, c'est un musée merveilleux, qui vaut, c'est l'un des plus grands musées du monde. Quel que soit le mur devant lequel on s'arrête, on tombe sur un chef-d'œuvre. C'est un musée admirable. Alors après, ce que j'ai découvert à la faveur de ce livre, c'est que l'Escorial a un petit musée qui est un miracle. Alors, c'est un... Certes, ça, c'est la pince... L'essentiel de sa peinture s'arrête au 16e, voire mettons début du 17e siècle, mais c'est sublime. C'est sublime. Il y a de très très grands tableaux à l'Escorial.
Mais alors là, il n'y a pas de Gréco à l'Escorial.
Il y a deux Gréco.
Il y a deux Gréco à l'Escorial.
Il y a le martyr de Saint-Maurice et
donc,
dont le roi n'avait pas voulu.
Et qu'il avait payé quand même.
À qui il a payé plus cher que le tableau qu'il a accepté. Donc le refus lui a coûté plus cher que le tableau accepté. Enfin bon. C'est-à-dire quand même qu'il reconnaissait la valeur du peintre. Et il y a un autre tableau qui est extrêmement intéressant, ça s'appelle « Le rêve de Philippe II et la gloire de la Sainte Alliance ». Et la gloire du Sacré-Cœur de Jésus et la victoire de la Sainte Alliance, c'est les trois noms qu'il a, qui est un tableau que le roi avait commandé au Gréco pour bien s'assurer que c'était un bon peintre. Et le Gréco, qui était quand même un petit peu très malin, voire un peu tordu, s'était renseigné avant pour savoir ce qu'aimait le roi.
Le roi, ouais.
Et là, il a mis dans ce tableau qui n'est pas énorme, qui est un tableau pour des dimensions, vous voyez. Il avait mis tout ce qu'aimait le Philippe II. Alors, il y a du Bosch, il y a la contemplation du ciel, il y a le pape. Enfin, c'est un résumé de ce qu'aimait Philippe II, c'est dans un modèle réduit. Et Philippe II avait aimé, donc c'est comme ça qu'il avait commandé le martyr de Saint-Maurice.
Donc, si on va à Tolède, si on va donc à l'Escorial et si on va au Prado, on a vu à peu près tout ce qu'on peut voir du Gréco.
Si vous allez à Tolède, vous allez voir l'enterrement du comte d'Orgaz, qui est quelque chose d'absolument extraordinaire. Vous allez voir l'Expolio, qui est le partage de la tunique du Christ, qui est à Tolède, qui est un tableau. Il faut le regarder, mais amusez-vous à le regarder sur Internet et allez capter les visages qui sont derrière la figure du Christ et vous les isolez et vous faites l'expérience. Vous dites de qui est vous les isolez, hein, vous les sortez, enfin, vous les, et vous demandez de qui est ce visage, qui a peint ce visage, et tout le monde vous dit c'est Daumier. C'est incroyable la puissance, la capacité de portrait qu'avait le Gréco sur des figures réduites. Donc, il y a l'Expolio, ça c'est à Tolède. À l'Escorial, il y a ces deux tableaux qui sont deux tableaux absolument superbes. Et après, au Prado, là, il y a pratiquement la quintessence de son œuvre. Mais après, il y en a d'autres. Il y en a un que j'ai vu à Budapest qui est très très beau. C'est une Sainte Madeleine de ses débuts, très beau. Il y en a un à Pau qui est très beau.
Ouais. Au château de Pau.
Au château de Pau. Au musée de Pau,
ouais. Donc voilà. Donc, mais enfin, c'est, il y a quand même une grosse concentration donc en Espagne, en Castille,
bah oui, quand même.
Bien sûr. Voilà. Donc oui, là, finit ses jours d'ailleurs. Hein.
Le Gréco, oui, finit ses jours. Donc en 1614, où il est en 1613, il y a quelqu'un qui vient le voir parce que Gréco, à la fin de sa vie, est très peu connu en dehors de Tolède, voire même un peu mésestimé. Mais il y a quelqu'un qui a perçu l'incroyable puissance de sa peinture, et c'est quelqu'un, c'est un peintre sévillon qui s'appelle Pacheco. Et ce Pacheco, c'est pas n'importe qui, parce que ça va devenir le maître et le beau-père de Velázquez. Donc, vous voyez la continuité.
Ah, oui.
Finalement, ces lignées qui commencent avec des journalistes que je n'ai jamais connus, qui s'appelaient Louis Aimier, sur lequel j'ai un tout petit peu écrit, qui a continué avec Pierre Véité, qui a peut-être transmis à quelqu'un d'autre. Il faut croire que également dans la peinture espagnole du Gréco, en passant par Pacheco et Velázquez, il y a quand même de la continuité.
Il y a une autre question que je voulais vous poser avant de finir. C'est une enquête sur l'enquête sur un tableau. C'est presque un genre, hein, l'enquête sur le mystère du tableau. Est-ce que vous avez eu accès à d'autres, à des exemples de ces écrivains qui, fascinés par des toiles mystérieuses, se lancent dans des explications et des recherches qui les mènent assez loin parfois.
Il y a un livre que j'aime beaucoup, mais qui est ressorti récemment, c'est le livre L'homme en route de Julian Barnes, qui est un très beau livre, qui ressemble un peu à ça. Mais il faut dire que la collection du Cherche Midi, qui s'appelle Le Passé Muraille, est basée là-dessus, c'est-à-dire c'est à partir d'une œuvre. Qu'est-ce qu'on peut imaginer à partir d'une œuvre? Qu'est-ce qu'on crée à partir d'une œuvre? Qu'est-ce qu'une œuvre vient chercher en vous pour que vous puissiez écrire un livre sur ce sujet-là?
En tout cas, on tire le fil et c'est passionnant, puisqu'on est à la fois donc sur plusieurs terrains avec des personnages tellement différents et qui se rejoignent. Une enquête et un style. Donc là, je pense que vous aurez plaisir à lire Ibarté, parce que bon, si vous avez aimé ses éditos. Et peut-être si vous avez lu aussi ce qu'il a pu écrire avant, je pensais d'ailleurs dans La veine espagnole à la huitième couleur. Vous aimerez retrouver sa patte, son style, et puis cette écriture pleine de couleurs, de nostalgie, de surprises. Voilà, donc merci beaucoup, Yves,
merci
de nous avoir offert ce moment.